Derrière chaque château, il y a une histoire, parfois glorieuse, parfois mystérieuse, souvent méconnue. Dans ces épisodes hors série, je vous emmène à la rencontre des châteaux et du patrimoine français pour écouter ce que les murs ont encore à nous dire. Bienvenue dans un voyage à travers le temps. Nous sommes avec Patrick Palem, secrétaire général de la Fondation Brou de Laurière, architecte de formation, ancien chef d'entreprise de la société Socra à Marsac, spécialisé dans la restauration d'œuvres patrimoniales mais également délégué de la Fondation du patrimoine en Dordogne. Un parcours au croisement de l'architecture, de l'entrepreneuriat et de l'engagement au service du patrimoine et de l'intérêt général. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été chef d'entreprise, architecte engagé dans le patrimoine et aujourd'hui secrétaire général d'une fondation. Quel est le fil conducteur entre toutes ces fonctions ?
Je crois que c'est le patrimoine, mais effectivement, au début, on n'a pas cette reconnaissance. Les études d'architecte, au départ, vous amènent plutôt sur du contemporain, sur du traditionnel. Et malheureusement, d'ailleurs, 10% des architectes font vraiment de l'architecture, puisque c'est des métiers qui sont un peu en difficulté aussi. Et c'est vrai que c'est... À un moment donné, je suis rentré en 1980 dans cette société, Socra, qui existait déjà depuis les années 64. Celui qui avait créé cette société était spécialisé dans tout ce qui était monument historique. C'est lui qui a fait le premier relevé de Lascaux, qui est beaucoup moins précis évidemment que celui qui a été fait par la suite. C'est lui qui a développé la dépose des mosaïques avec des techniques tout à fait nouvelles. Toutes les mosaïques de Vaison-la-Romaine, de Lyon, des Jeux du Cirque, etc. a été déposée à cette époque-là et je l'ai accompagné pendant 10 ans. Sur ces chantiers assez fabuleux, on était une toute petite équipe de 7 ou 8 personnes qui travaillions sur l'ensemble de la France. On n'a jamais travaillé que sur la région, on travaillait sur l'ensemble de la France et par la suite même à l'étranger, dont on y viendra après. Donc c'est vrai que cette découverte, c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a une certaine sensibilité et que même si aujourd'hui pour beaucoup, et tant mieux, le sens dans le travail est devenu important, à l'époque ce n'était pas vraiment la première chose. Mais là, petit à petit, je retrouve du sens à ce que j'ai fait, avec un peu de distance, et comme souvent je dis, on oublie les parties difficiles et on garde les moments heureux où on a découvert des monuments par la petite porte qui sont assez fabuleux.
À quel moment vous avez compris que le patrimoine serait central dans votre parcours ?
Je crois que c'est... Les monuments, ils méritent d'être observés de près. On voit souvent des petits détails. Évidemment, il y a le flux des touristes qui passent, et puis on oublie beaucoup de choses. Mais vous voyez, il m'est arrivé j'ai dirigé le chantier de la copie de la grotte Chauvet. Donc j'ai eu la chance de rentrer évidemment dans l'original. Et c'est vrai que là, vous retrouvez la complexité qu'ont eu ces artistes de travailler à la fois sur la couleur, mais aussi sur le modelé de la grotte. C'est-à-dire, on a recréé des volumes. Alors, on pourrait même parler de perspective parfois dans le regard de certains lions, où on a l'impression qu'ils se prolongent et qu'ils donnent une perspective. Même certains se sont emballés, ont imaginé que si on se promenait avec une bougie, on créait le cinéma. C'était peut-être pas tout à fait la vérité, mais tous ces détails, et dans le patrimoine aussi, dans la qualité des sculptures, vous avez vraiment une émotion, une sensibilité, surtout sur certaines époques. Au niveau de la Renaissance, c'est une qualité exceptionnelle, mais il y a moins de sensibilité que l'on avait sur la partie moyenâgeuse, où on a vraiment... pour deux raisons, c'est qu'on sculptait au Moyen-Âge sur le monument, à la Renaissance, on sculptait au pied du monument. Donc l'œuvre n'était pas... seulement, bien sûr, historiquement, mais techniquement différente, et le travail était beaucoup plus sensible. Donc cette émotion, on commence à la ressentir quand on approche de près ces monuments et qu'on arrive à comprendre un peu comment le mérite qu'ont eu tous ces sculpteurs, ces artisans, ces maçons qui ont une connaissance extraordinaire sans toute la technologie que l'on a aujourd'hui.
Est-ce que vous étiez prédisposé à développer cette sensibilité ? Est-ce que dans votre enfance ou dans votre entourage, vos proches avaient des professions similaires à celles que vous avez...
Non, non, c'est vraiment un hasard, si vous voulez, comme je ne sais pas aujourd'hui comment on fait, mais après avoir eu le bac à Claveil, mon meilleur copain est parti en école d'archi, donc je suis parti avec lui. Vous voyez, donc là, on ne peut pas dire que c'était une vocation, mais ça l'est devenu pas tellement dans les écoles d'archi, parce que c'était pas... D'ailleurs, j'ai jamais été vraiment un architecte, j'ai jamais rien construit, donc je ne suis pas un architecte au sens professionnel. Je suis rentré dans cette structure très rapidement et effectivement, tout l'apprentissage est venu sur le terrain finalement. Mon vrai métier, je l'ai appris sur le terrain, même si effectivement il y a des moments où évidemment l'histoire de l'art qui est importante à comprendre, les évolutions dans les styles. On ne peut pas ne faire ce métier que simplement intuitivement. Il y a aussi quand même une base, mais qui s'apprend sur le terrain.
Est-ce que vous diriez que vous êtes d'abord entrepreneur, architecte ou homme engagé ?
Alors, je pense qu'il y a un peu des trois, bien évidemment. Je vais résumer ça. Je pense que entrepreneur, on est un peu obligé quand vous avez une structure où il y a une quarantaine de personnes, que vous travaillez à travers le monde même, puisque des chantiers ont été jusqu'en Ouzbékistan ou au Japon. Donc vous êtes obligé de, quand même d'avoir une comptabilité et d'essayer d'être au moins équilibré ou gagner un peu d'argent, ce qui heureusement, globalement, a été le cas, même s'il y a eu des années bien sûr difficiles. Et c'est vrai que on a aidé aussi, on a beaucoup fait de travaux pour des associations qui n'avaient pas beaucoup d'argent, donc où on ne faisait pas des prix qui étaient très chers pour pouvoir participer à cette émotion qu'ont les gens quand ils voient des statues. Donc ça, c'est l'économie, même si je vous dis, il est important d'avoir des résultats, même s'ils ne sont pas, comme aujourd'hui on dit, à deux chiffres, mais qui sont quand même, qui vous permettent de vivre et de correctement et de payer au moins. C'est une des grandes satisfactions d'ailleurs sur le plan économique, c'est que pendant 40 ans, les collaborateurs que j'ai eus n'ont jamais eu un jour de retard de paiement et il n'y a jamais eu un jour où on n'a pas su quoi faire dans l'atelier. Donc ça, c'est un privilège et j'en ai conscience. Après, sur le plan mission, je pense que c'est devenu par la suite, puisque vous commencez à être un peu connu au niveau national sur et donc on m'avait choisi pour, entre autres, être le directeur du projet de la Galerie des Glaces à Versailles, qui était quand même un sujet. Et on a répondu à pas mal de concours sur des opérations à l'étranger, entre autres, je me rappelle d'une opération au Danemark, où il y avait une grande concurrence, et on a réussi à l'avoir de par la réputation qu'on avait, parce qu'on n'est pas parfait bien sûr, hein, mais globalement cette réputation nous a permis d'avoir beaucoup de chantiers, et, pas de faire fortune, ça n'a jamais été le cas, mais ce n'était pas le but non plus au départ.
Comment vous faites pour vous faire connaître à l'international ?
Alors ça a été toujours très long, parce que je crois que c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que la réputation elle vient petit à petit sur le nombre de chantiers que vous faites, et je crois qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous répondez à une opération, vous avez ce qu'on appelle un appel à candidature d'abord, c'est-à-dire qu'on retient ceux qui sont susceptibles de répondre, et après il y a l'appel d'offres, où vous répondez financièrement. Sur l'appel à projet, on a toujours été retenu. Jamais une collectivité nous a refusé de répondre. Après, des fois, on était plus cher ou moins cher, etc. Mais jamais. Donc ça veut dire que quand même, sur le plan de la réputation, on avait su créer vraiment, dans nos métiers, une particularité. Il nous arrivait de faire des chantiers vraiment à l'école qui ont été assez extraordinaires. Ça serait trop long à résumer, mais le nombre de chantiers qu'on a fait, je me souviens avoir restauré des décors de Fernand Léger, où pour tout le monde, ils étaient perdus, il fallait les jeter, et on a réussi à les sauver, et c'est vraiment, et on a fait des conférences, puisqu'on a quand même diffusé pas mal, on a aussi formé beaucoup de gens qui sont passés dans nos ateliers, et qui sont devenus restaurateurs. Donc je pense que c'est un long travail, je ne dis pas que tout n'a pas été parfait, bien sûr, hein, ça serait. Mais je pense que c'est vraiment ce résultat de ce travail, de certaines réussites et de certaines médiatisations aussi, puisqu'on a eu la chance d'être très médiatisé. Je pense, je n'ai pas bien compté, mais une dizaine de Déraciner des ailes, des films sur la scène, et puis médiatisé, mais pas seulement à cause de nous, à cause de ce qu'on faisait, bien évidemment. On ne le prend pas pour nous, hein, on n'est pas les stars du patrimoine, on est juste les œuvres que l'on a sont les stars du patrimoine et on a la chance de travailler dessus. Et il faut aussi de l'humilité, parce que ce n'est pas nous les créateurs, nous sommes simplement les restaurateurs.
Moi, je suis assez époustouflée, parce que je ne suis pas native de Dordogne, ça fait à peu près 5 ans que j'y suis. Et j'ai découvert, même avec, par le biais de mon ancienne activité professionnelle, tout un tas de pépites en Dordogne, d'entreprises incroyables, qui œuvraient. Moi, j'ai une sensibilité pour le patrimoine, donc ça me touche d'autant plus. Mais vous disiez tout à l'heure que vous aviez accepté parfois des marchés qui était moins lucratif que d'autres parce que le projet en lui-même était très intéressant. Et j'ai rencontré aussi, moi, des menuisiers incroyables ici en Dordogne qui, parfois, pour pouvoir réaliser des choses qui sortent de l'ordinaire, atypiques et qui demandent un vrai savoir-faire, ils vont avoir tendance à accepter un marché sur un château, etc., où ils gagneront moins d'argent, mais où le projet, en fait, est tellement stimulant et enrichissant qu'ils y vont, parce que ça change de ce qu'ils sont habitués à faire. Et c'est vrai que c'est incroyable.
Vous avez raison, je crois que c'est des métiers passion. Malheureusement, il faut un peu de raison aussi pour arriver à équilibrer, mais vous avez raison, c'est des métiers passion. Quand j'ai débuté ma carrière, j'avais une agence à Paris, parce que malheureusement, il y a beaucoup de chantiers qui se passaient à Paris. Je dis malheureusement, parce que c'est bien que la province est aussi on peut parler après du patrimoine au sens large, et je vous dirai un peu sur les financements, comment ça se passe. Et c'est vrai que je passais toujours devant le Grand Palais et je voyais ces quadriges de récipants, qui sont ces chevaux qui sont sur les toits avec un char. Je me disais, ils sont superbes. Et un jour, il y a eu l'appel d'offres et on les a amenés tous à Périgueux. C'était 10 semi-remorques qui sont venus de chevaux, de chars, d'éléments, qui sont venus ici et qu'on a restaurés. Et c'était pas un aboutissement, mais c'était presque, voilà, comme quoi on peut arriver à tout, on peut rêver et d'un seul coup ça vous arrive. Et des opérations au Japon. Au Japon, on a eu la chance d'amener la Statue de la Liberté de Paris pour l'année de la France au Japon en 92. Donc on l'a démontée sur l'île aux Cygnes. Je suis reparti avec une équipe japonaise, je l'ai remontée à Tokyo. Elle y est restée un an. Je suis revenu pour la démonter avec une équipe, on l'a remontée sur l'île aux Cygnes à Paris et on a fait une copie, alors pas en fonderie parce qu'on n'était pas fondeur, mais on a fait les moules et les... Et maintenant, il y a une copie dans un quartier qui s'appelle Daiba à Tokyo de la Statue de la Liberté qui fait que 13 mètres, effectivement, elle ne fait pas 50 et quelques mètres comme celle de New York, mais c'est des histoires fabuleuses parce que vous croisez des gens extraordinaires. Donc c'est vrai qu'il y a un parcours historique qui est assez amusant et puis, ben, je vous dis, vous avez les clés du château de Versailles pendant 3 ans. Bon, malheureusement, on ne peut pas y coucher, mais c'est assez exceptionnel de voir de près ces détails-là. Et la même chose en Ouzbékistan, où on est resté 3 ans sur un projet, d'ailleurs, avec le département, qui était un fil conducteur aussi, un projet européen sur lequel on avait répondu. Et tout ça, c'est des expériences qui sont fabuleuses, parce que vous avez une reconnaissance du travail, pas de la personne, mais du travail qu'on fait. Et on a essayé, entre autres en Ouzbékistan, d'apporter la philosophie de la restauration que l'on a dans nos métiers et ce que l'on a en Europe, on va dire, qui n'est pas tout à fait la même en Asie, où il y a une volonté plutôt de refaire à neuf que de conserver ce qui est ancien. Je schématise un peu, mais c'est un peu ça. Donc c'était essayer d'apporter la notion d'importance de la qualité et de la transmission de l'œuvre pour le tourisme en propre, puisque c'est quand même un élément, vous allez peut-être me poser ces questions par la suite, mais c'est un élément important pour le développement d'une collectivité, d'un pays. Je crois que c'est un sujet important aussi.
Par rapport à l'entreprise Socra, donc qui intervient sur des statues, des œuvres patrimoniales, ma question serait la suivante. Est-ce que restaurer le passé, c'est aussi une façon de construire l'avenir ?
Vous avez raison. Je dis absolument, parce que j'ai effectivement maintenant dans l'activité de la Fondation du patrimoine, entre autres, des gens qui hésitent à restaurer leur monument, ils disent ça va coûter cher, ça sert à rien. Et j'ai effectivement la phrase qui ressemble un peu à la vôtre, de dire que les dépenses d'aujourd'hui sont les économies de demain. Parce que vous ne pouvez pas détruire un monument. C'est comme si vous brûlez vos archives. Vous avez vu ce qui s'est passé dans certains pays quand on détruit les Bouddhas, les choses comme ça, l'émotion que ça provoque dans le monde entier. Alors certes, la petite chapelle dans un coin, si on la démolit, ça n'aura pas le même. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas... C'est détruire quand même nos archives. Et c'est terrible, c'est des archives 3D. Donc je pense qu'on est obligé de les conserver. Mais pour les conserver, c'est vrai que ça a un coût. Et je pense qu'il faut leur redonner un sens et une fonction. Ça ne peut pas être des objets comme dans un musée qu'on regarde et où on passe à côté. Il faut leur redonner une fonction, c'est évident. Et c'est notre histoire aussi, c'est notre ADN, sans jouer sans vouloir être plus chauvin. Je pense que c'est important de se rattacher à quelque chose. Et je crois que le but, c'est vraiment de donner ces fonctions-là. Et après, c'est un vecteur, pas simplement de tourisme, mais c'est un vecteur aussi de tourisme. Et on le voit bien avec la Dordogne, qui est quand même un des départements touristiques les plus visités, hors la côte, évidemment. Et c'est vrai que c'est en grande partie par les paysages aussi, bien sûr, mais par le patrimoine.
Oui, parce que nous sommes la région des 1001 châteaux, si je ne me trompe pas.
Nous sommes la région des 1001 châteaux.
Mais qui est un petit peu...
Oui, c'est un peu c'est un peu une histoire, mais c'est vrai que ces châteaux-là, je crois qu'il y a aussi du mérite pour les propriétaires qui essaient de les restaurer. Bon, certains ont effectivement des moyens qui le permettent, mais beaucoup ne l'ont pas. Et ça, c'est un peu l'aide que l'on apporte avec la Fondation du patrimoine. On essaie, pas d'être les financeurs, mais d'être une aide au financement de certains projets. Et il y a des projets complètement fabuleux. Vous avez aujourd'hui... parler souvent du château de Lerme qui est parti d'une ruine et qui va redevenir un château comme il était on va parler du 15e ou 16e siècle, simplement par passion, par quelqu'un qui sait très bien que c'est pas un objet qui va lui rapporter de l'argent, mais c'est une passion. Et c'est vrai que ça, c'est important de participer avec eux, de les aider financièrement et même techniquement.
Diriger une entreprise spécialisée dans le patrimoine, est-ce que c'est différent d'une entreprise classique ?
Alors c'est différent d'une entreprise qui fait du commerce, évidemment, parce que la mission principale, c'est de rendre un travail dont on est fier et quitte à passer plus de temps. Vous savez, je compare souvent ça, je disais à mes équipes, quand on avait des chantiers, je leur disais, vous allez sur tel chantier, il y aura ça à faire, ça, ça, etc. Mais jamais je leur disais, il faut le faire en 4 heures, en 8 heures, en 12 heures. Si vous voulez, c'est la différence de philosophie dans une entreprise où vous êtes obligé de quantifier le temps. Alors évidemment, on anticipe, puisqu'il faut quand même mettre un chiffrage, et donc on estime le temps qu'il faudra, mais ce n'était pas la première chose que je demandais. La première chose, c'était que vraiment, on essaie, je ne vais pas dire qu'on a réussi tout le temps, hein. Sinon, en 40 ans, si tout était parfait, ça serait, je serais déjà vénéré, mais ce n'est pas le cas. Mais au moins, cette satisfaction de dire, essayer de bien faire, ce n'est pas le temps qui est le plus important. Alors évidemment, ça marchait dans les deux sens, heureusement, comme je disais, des fois on mettait plus de temps, mais d'autres fois moins, et globalement,
ça s'équilibrait.
On avait un équilibre. Oui. Parce qu'il faut quand même être équilibré. Il faut
oui, parce que j'allais dire, pour estimer et chiffrer une opération, ça doit être extrêmement compliqué, surtout qu'on n'est pas à l'abri de...
Voilà, je vais vous donner un exemple qui est malheureusement à la fois tragique, mais à la fois aussi exceptionnel, c'est Notre-Dame de Paris. Donc on a répondu à la restauration des apôtres de Notre-Dame. Donc évidemment, ils sont à 50 mètres de haut, vous les voyez en bas, vous avez une étude qui est plus ou moins bien faite, qui vous dit voilà ce qu'il faudrait faire, mais honnêtement, c'est pas très clair. Heureusement, pour la Socra, qu'on a une expérience dans ce type d'ouvrage, entre autres, l'Archange du Mont-Saint-Michel, le Lion d'Enfer Rochereau, enfin, je pourrais en citer des dizaines de chantiers qui étaient réalisés sur la même méthode. Donc on sait à peu près l'état dans lequel on va le trouver. Donc cette expérience vous sert, quand même, parce qu'il faut mettre un chiffre à un moment donné. Et ce chiffre-là, vous voyez, il est quand même... Alors parfois, il nous est arrivé de nous tromper dans les deux sens, comme je dis. Donc finalement, on s'équilibre. Mais c'est vrai que c'est très difficile, et c'est là où l'expérience peut servir, parce que je crois qu'on ne s'est pas trompé sur ce prix-là, puisque finalement, le but, c'était aussi de gagner de l'argent, et malheureusement... Enfin, heureusement, ils ont été enlevés 3 jours avant l'incendie, et par la suite, malheureusement, il y a eu ce terrible incendie, qui est vraiment terrible, mais... qui a permis, si on voit les côtés positifs, et c'est toujours ma vision, d'abord de ne pas coûter d'argent à l'État, puisque c'est essentiellement du mécénat, de ne pas avoir un blessé, enfin un blessé, je crois qu'il y a eu un pompier, mais je veux dire pas de décès ni de blessés graves sur cette opération, et de relancer le monde et la passion qu'ont les jeunes pour le patrimoine d'une manière extraordinaire. À Périgueux sont venus comme une cinquantaine de télévisions qui venaient de Chine, de Russie, des États-Unis pour filmer les apôtres. Donc cette audience qu'il y a eu d'un seul coup a mis en valeur tous ces métiers du patrimoine. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement. Bon, comme toujours, la perte en ligne, mais il y a eu un engouement. Et beaucoup de métiers, de reconversion aussi, des gens sont venus pour dire ben, « oui, j'aimerais bien faire ça ». Et je crois qu'après... le chantier de Notre-Dame. Alors un mois après, j'ai vendu la société, donc je ne me suis pas tellement occupé de la suite qu'il y a eu sur Notre-Dame. Mais tous ont eu l'impression de participer à quelque chose d'exceptionnel, et ça restera marqué dans leur vie, comme on a tous. Ça reste très personnel, nos satisfactions, mais voilà, il y a aussi un vrai plaisir, je crois que c'est aussi redonner du sens à ce qu'on fait.
Je pense que beaucoup de personnes étaient en émoi de voir Notre-Dame brûler, moi la première, et je sais que d'autres entreprises aussi en Dordogne ont œuvré pour sa restauration.
Oui, effectivement, beaucoup d'entreprises ont travaillé, entre autres les ateliers Férignac qui ont travaillé dessus, beaucoup de sociétés. On a la chance en Périgord d'avoir beaucoup d'entreprises qui s'expatrient au moins sur le plan régional, parfois même international pour certains. Et il y avait une solidarité. On a toujours tous travaillé ensemble. Il y a un peu l'ADN périgordais. D'abord, peut-être parce qu'on n'est pas dans le même domaine, donc on n'a pas de concurrence entre nous. Et c'est vrai qu'il y a eu une solidarité. On se retrouvait beaucoup à Paris entre les différentes entreprises. Et c'est vrai que la Dordogne a cette qualité-là d'avoir beaucoup d'entreprises de qualité.
Et... Oui, de métiers d'art, c'est vraiment incroyable. Quels ont été les plus grands défis en tant que chef d'entreprise dans ce secteur spécifique ? Pour vous, j'imagine qu'il y a eu des opérations, comme vous disiez, qui ont été plus compliquées que d'autres.
Alors oui, il y a toujours une angoisse, une certaine angoisse, donc quand on fait des, surtout quand on est médiatisé, et ça a été le cas quand vous déposez, par exemple, l'Archange du Mont-Saint-Michel. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est pas vue sûrement à la télé, mais vous avez un hélicoptère qui prend en charge l'Archange du Mont-Saint-Michel. Il y a beaucoup de vent, ça a été repoussé de plusieurs jours d'ailleurs. Et à un moment donné, vous levez le... Pour l'hélicoptère, c'est très compliqué parce qu'il n'a pas de repère. Donc il faut vraiment qu'il soit à l'aplomb. Donc vous avez un axe qui rentre, je schématise, dans un tube, et quand vous le levez, si vous n'êtes pas parfaitement vertical, vous avez un phénomène de balancement. Et là, il y a eu un balancement, ne serait-ce que de 50 cm, qui a provoqué comme un balancier, qui est passé pas très loin de l'échafaudage. Et donc, vous voyez, vous avez toujours, c'est rétroactif, mais c'est des choses qui sont... Et c'est là aussi, alors là aussi, c'est une des chances, et j'espère que ça durera encore, mais c'est que j'ai jamais eu d'accident grave dans la société. Bon, des gens qui se sont coupés un peu le bout du doigt, des choses comme ça, c'est arrivé, mais jamais d'accident grave. Alors, ça pourrait arriver, on n'est pas au-dessus de tout ça, mais c'est quand même aussi, quand on fait le bilan, une certaine satisfaction, parce qu'il y a eu des conditions de dépose. On m'appelle de dépose qui ont été faites à Tours sur une statue qui menaçait de tomber, où le quartier avait été évacué, et on a déposé ça à la grue et à la nacelle. Alors, ce n'était pas moi qui étais sur la nacelle, donc j'en tire beaucoup de mérite, mais en réalité, c'est les collaborateurs qui étaient sur place et qui ont fait ça, qui étaient assez extraordinaires. Donc, c'est une équipe aussi. Là, je le ramène un peu à moi, mais en réalité, si vous n'avez pas une très bonne équipe de gens très compétents et qui ont l'habitude, vous ne pouvez rien faire aussi. Seul, on n'est pas crédible.
J'allais vous demander justement, parce que quand je vois les statues que vous pouviez restaurer, etc., ne serait-ce que pour le transport, je me dis, imaginons qu'une œuvre s'abîme ou se casse, comment ça se passe? Vous êtes assuré, j'imagine?
Oui, mais alors comment vous assurez une œuvre d'art? Ouais. C'est, alors, parce que autant dans l'art contemporain, on arrive à avoir un chiffrage par rapport à ce qui a été vendu ou pas, mais les apôtres, par exemple, imaginez qu'on les écrase, comment on peut... Alors, il y a une assurance, bien sûr, mais vous couvrirez pas. Après, je vous raconterai sur les assurances avec les œuvres d'art contemporain, autre chose. Mais c'est vrai que quand c'est réparable, bien sûr, on le répare toujours. Mais quand c'est pas réparable, effectivement, ce qui n'est jamais arrivé, c'est une perte. C'est pour ça qu'aussi, une réputation d'une société tient à peu de choses, parce que il suffit que vous échappiez une statue, votre carrière est terminée, quoi. Donc, c'est aussi ça qui est important. Bon, c'est jamais arrivé, hein. Mais pour revenir sur les assurances, à un moment donné, donc, on avait pris un virage sur l'art contemporain, parce que je trouvais que c'était aussi... Donc on a travaillé avec beaucoup d'artistes pour faire des œuvres qui ont été exposées, et puis on a restauré des œuvres d'art contemporain, dont un lieu qui s'appelle la Petite Escalère, qui était à côté de Bayonne, en Saint-Laurent-de-Gosse, Fondation Haïm, qui avait des centaines d'œuvres de Miro, Calder, Mayol, Zaouki, etc. Donc on les a restaurés pendant très longtemps, et un jour la propriétaire m'a dit, écoute, je voudrais vendre parce que c'est inondable, on n'arrête plus, c'est pas un problème. Donc on a déposé les œuvres, on les a restaurées, on les a amenées chez Christie's, ça a été vendu, on les a ramenées à Périgueux, on les a revendues. Et toutes ces œuvres-là étaient assez exceptionnelles, et à un moment donné, elles ont été toutes dans l'atelier. Donc effectivement, je n'ai pas communiqué à cette époque-là, par superstition. Et par contre, évidemment, rien ne s'est passé. Une fois que c'est parti, évidemment, on a communiqué. Mais vous avez pour plus des centaines de millions d'œuvres qui étaient là.
C'est fou.
Ouais. Oui, c'était fou. C'était fou de trouver ce que dans les musées, vous ne pouvez pas toucher, que là, les collaborateurs refaisaient la patine de Rodin, de Miro, les mosaïques de Chagall. C'était assez fabuleux. Voilà, ça, c'est des grandes satisfactions, de plaisir, pas financier, c'était pas la notion financière, mais c'est la notion vraiment d'avoir touché et vu des œuvres sous dans un autre angle et puis dans des conditions assez exceptionnelles.
Et alors, comment ça se passe d'ailleurs, j'imagine, pour le transport d'œuvres, etc., puisque même quand vous les stockez à l'atelier, au niveau de la sécurité, est-ce que c'est très réglementé? Comment ça se passe?
Alors effectivement, quand la sécurité, bon évidemment il y a des caméras, il y avait dans nos ateliers, mais moi c'était pas tellement le vol qui me faisait plus peur, c'est l'incendie ou justement, qu'on fait des travaux quand même dans ces ateliers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forge, où il y a des moments où on a des points chauds. Quoi. Donc ça a été surtout ça, moi, l'inquiétude. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi sur les monuments. Quand on voit certains travaux, ils sont souvent, je ne dis pas qu'ils sont à l'origine, mais ils sont... Il y a des liens, des fois, qui existent entre les travaux. Mais ça, c'est un autre débat sur la sécurité. Mais effectivement, ça, c'était ça qui me faisait le plus peur. Mais après, pour les transports, bien sûr, on travaillait avec un transporteur, qu'un seul, avec qui on travaille depuis 30 ans, dont on sait que s'il y a un risque, il ne prend pas la route. S'il y a de la neige, il peut s'arrêter. Si la vitesse, ce n'était pas son sujet. Donc voilà, donc ça, je crois qu'aussi, il faut s'entourer de gens qui ne sont pas dans la recherche financière, de vouloir payer moins cher, mais de se retrouver après quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Donc ça fait partie. Et après, bien évidemment, On a démonté les fontaines de la Concorde. Vous imaginez, il y a des pièces qui pesaient 12 tonnes, qu'on ramenait en Dordogne. Vous vous rendez compte, les fontaines de la Concorde, ça veut dire Périgueux, il faut le savoir. Les quadriges du Grand Palais, le lion d'enfer Rochefort, mais j'en passe, il y a des meilleurs. Quoi. Donc on a fait un petit pari à Périgueux, à un moment donné, plus que dans les musées. Hein. Il y a eu des... Donc ça, c'était des choix aussi, mais c'est des risques, effectivement.
Mais comment, parce qu'on parlait des assurances, mais comment une assurance vous couvre pour tout ça? Parce que je veux dire, vous pouvez avoir des œuvres qui varient en termes de prix de façon colossale, et même inestimable. C'est pas trop compliqué de se faire assurer quand on a ce genre d'activité?
Alors, je vais vous donner un contre-exemple et après je vous répondrai sur la question. Je me suis occupé, donc, comme directeur du projet, de la restauration de la Galerie des Glaces qui a duré 3 ans. C'était financé par un groupe qui s'appelle Vinci, qui était mécène. C'était 12 millions d'euros. Quand on a commencé le projet, on est devenu maître d'ouvrage délégué. Donc j'étais maître d'ouvrage délégué. C'est-à-dire Versailles nous avait confié la galerie dans l'état où elle était, on la leur rendait restaurée. Donc il a fallu assurer, demander l'assurance. Donc j'ai demandé au groupe Vinci, j'ai dit voilà, on a ça, on va assurer. Et ils m'ont dit, mais c'est combien le mécénat? 12 millions, ça ira pour la première, pour l'assurance, ça fera le premier paiement. Ça veut dire que c'était impossible, quoi. Donc l'état a pris en charge le... Comme pour Notre-Dame, si vous voulez, tous ces monuments, c'est l'État qui prend en charge les assurances. Si, il y a une assurance, bien sûr, pour les dégâts dont je vous parlais, on écrase une statue, c'est notre assurance qui va la restaurer, mais elle disparaît. Donc il y a les collectivités, l'État qui... C'est pas assurable, vous avez raison, c'est pas assurable. Alors quand c'est du privé, là vous revenez sur les histoires, tout à l'heure je vous racontais de Miro, Calder, etc. Donc là, c'est Christie's qui avait pris l'assurance des œuvres qui étaient dans nos ateliers.
D'accord.
Ils étaient venus voir que ça soit conforme, bien sûr, hein, et c'était eux qui avaient pris les assurances en charge.
Ça ne vous incombait pas. Le patrimoine, est-ce que c'est un secteur fragile économiquement?
Oui, c'est fragile, d'autant plus aujourd'hui où je vois un peu à distance, je suis un peu moins présent, mais les baisses de crédit qui sont de plus en plus importantes. Alors heureusement, si je prends l'exemple de la Dordogne, je crois qu'on est devenu, avec la Fondation du patrimoine, le premier contributeur financier pour le patrimoine.
En France?
C'est-à-dire par rapport à l'État, oui. Par rapport aux aides de la région et du département. Si vous voulez, aujourd'hui, je crois que la Fondation du patrimoine, sur le plan national, a donné 110 millions. Je n'ai plus en tête le budget de l'État pour le patrimoine. Il est autour de 300 millions, mais je n'ai pas les chiffres exacts. C'est disproportionné, quoi. 110 millions d'un côté, 300 de l'autre, pour qui est l'État avec tout le patrimoine. Là, on parle de tout le patrimoine de France, c'est-à-dire toutes les églises. Donc c'est énorme. Donc c'est un budget qui est ridicule.
Oui.
Qui est ridicule, c'est sûr. Donc il faut en vivre. Et c'est pas si facile que ça. Les marges sont pas... C'est pas des métiers à rentabilité financière importante. Ou si ça le devient, c'est parce que les gens se mettent à faire, comme ils ont des compétences, des travaux pour les riches propriétaires, les grands hôtels, où là, effectivement, il y a une marge un peu plus importante. Mais sur le patrimoine humain appartenant à l'État ou aux collectivités, c'est toujours difficile. On voit bien pour les collectivités, c'est terrible aussi. Financièrement, c'est pas... Alors, c'est vrai qu'il y a cette notion. Et puis, il y a une culture derrière. Et souvent, je dis, pour certains élus, la culture du bon goût, ils l'ont pas forcément.
Qu'est-ce qu'entreprendre vous a appris que l'architecture ne vous aurait pas appris?
Je crois que l'architecture, comme je vous ai dit, c'est un passage, mais pour moi, ça a été juste un passage comme une formation initiale, mais c'est pas vraiment, j'en ai pas tiré des conclusions par la suite, puisque j'ai tout de suite, je me suis orienté sur la restauration du patrimoine, et donc c'était plus ce savoir-faire. Il y avait une chose aussi qui était importante au début pour moi, c'était aussi travailler avec les mains. Donc pendant quelques années quand même, j'ai participé aux dépôts, j'ai réalisé des... Je pense que c'est important de toucher pour comprendre ces œuvres-là et de comprendre les difficultés qu'on a quand vous voulez les chiffrer par la suite et les organiser. Si vous n'avez pas pratiqué, vous ne pouvez pas. Donc ça a été quelque chose d'important. Ce qui se perd aujourd'hui, puisque maintenant on a des formations souvent avec des gens qui ont des très belles formations, qui sont des conducteurs de travaux, qui ont fait des écoles d'ingénieurs, mais cette sensibilité, vous ne l'avez pas forcément. Ce n'est pas la culture, c'est la sensibilité. Et puis, je crois qu'il y a cette capacité à s'émouvoir devant des œuvres, quoi, à trouver ça, il faut la conserver. Donc, l'architecture, c'est des bases, quoi, si on veut, mais après, c'est vraiment, on rentre dans le dur, c'est une porte qui s'ouvre, mais après, on découvre le vrai monde de la conservation avec les problèmes que l'on peut avoir. Puis, chaque monument est différent, on n'est pas dans des règles. Si vous prenez un monument du Moyen-Âge ou de la Renaissance ou Art déco, vous n'avez pas les mêmes matériaux, les mêmes techniques de construction, donc tout est un peu différent, et la structure aussi, elle est différente dans toute toutes les époques. Donc on ne peut pas parler d'une architecture, on parle de multitude d'architectures.
Ainsi s'achève cet épisode hors série consacré aux châteaux et au patrimoine français. Merci de nous avoir accompagnés dans cette parenthèse hors du temps. On se retrouve très bientôt pour continuer à faire vivre ces lieux et leurs histoires.